There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bienvenue au balado Urbania.
Coucou Ben.
Allô Malia.
Comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va très bien, surtout qu'on va parler d'une série qui nous rend accro depuis à peu près 2 ans, qui est Yellow Jacket. Yellow Jacket, pour un peu expliquer pour ceux qui ne l'écouteraient pas, à remédier, c'est un show sur Showtime et non Primetime, qui est diffusé depuis novembre 2021 et qui raconte l'histoire d'une équipe de soccer féminin, qui s'envole en fait pour une compétition, mais leur avion se crache en pleine forêt sauvage. Donc pendant à peu près 15 mois, elles doivent en fait s'organiser pour survivre tout simplement. Et donc, on les suit sur 2 timelines. On les suit en 1996, mais on les suit en 1996 parce que c'est tout simplement la timeline du crash. Et puis, comme on voit un peu comment est-ce qu'elles se sont organisées pour survivre. Et on les suit aussi en 2021-2022-ish, quand elles sont adultes et qu'elles vivent leur vie, etc. Et ils planent, en fait, toujours, que ce soit en 1996 comme en 2022, une sorte de question qui est « Que s'est-il vraiment passé pendant ces mois ?» dans la nature. Et surtout, est-ce qu'il y avait un élément surnaturel, un it?
Exactement, le wilderness, ou comme il l'appelait.
C'est ça, c'est
le, ça. L'élément d'intrigue aussi, c'est jusqu'où ils se sont rendus. Mm-hmm. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire c'était terrible ce qu'on a fait, on ne veut pas penser à ce qu'on a fait. Mm-hmm. Puis graduellement, la série révèle d'épisode à épisode, en saison, mm-hmm. jusqu'à quel point. Dans l'horreur, ils se sont rendus pour survivre.
C'est ça, parce qu'on sait, elle s'y réfère de façon très très vague, avec quelquefois des petits exemples bien précis. Tu dis il s'est passé ça, et comme juste après, elle continue avec des termes vagues, et puis avec les back and forth comme entre les 2 timelines, c'est là où toi-même tu commences à mettre les pièces ensemble et voir le tableau au complet et être là genre il s'est passé ça en fait.
Absolument. Tu sais, alerte aux divulgateurs, parce qu'on va parler de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Mm-hmm. Ce qui est bien, je trouve, avec cette saison-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a apporté des réponses à certains éléments, mais on n'a pas apporté des réponses aux questions fondamentales. Mm-hmm. Selon moi, une bonne série ou une bonne fiction tout court, c'est une fiction qui s'attaque à des questions qui n'ont pas vraiment de réponses. Mm-hmm. J'en parlais avec mon collègue Jean-Philippe Cochon à l'heure du dîner. Puis lui, il a détesté la 2e saison parce que pour lui... j'ai eu la même réaction. Okay. Parce que pour lui, c'est un gars d'histoire. Il faut que l'histoire fasse du sens, il faut que l'histoire soit bien racontée. Oui. Moi, je suis un gars de personnage. Si l'histoire peut faire absolument aucun sens, mm-hmm. si les personnages sont adorables, je vais adorer les personnages.
Ouais.
Puis tu sais, cette question-là qui est impossible à répondre. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Puis si on est seul dans l'univers, est-ce que c'est une bonne chose? Je trouve qu'on l'a vu très bien exemplifié à la dernière, au dernier épisode, mm-hmm. lorsque les filles pigent une carte pour savoir laquelle d'entre elles va être exécutée au wilderness, au it, mm-hmm. pour satisfaire la colère des dieux. Et lorsque c'est Shauna qui a été pigée, Shauna dit, mais voyons, ça a juste toujours été juste nous.
C'est ça, il n'y a pas de force surnaturelle qui nous pousse à faire un sacrifice, ça a vraiment juste été nous. Et puis, t'as Lottie qui répond.
Est-ce que ça fait une différence?
C'est ça. Alors que pendant toute la saison, on a comme entretenu cette mystique de oui, il y a vraiment une force que seul Loti arrive vraiment à comprendre, qui pousse les gens, qui déjà protège les filles quand elles sont dans la nature, dans vraiment à l'état sauvage, et qui aussi dicte un peu leur. Mais je dirais non, c'est même pas qu'elle dicte quoi que ce soit, c'est plus qu'elle les protège au coût de quelque chose.
Oui, exactement. Il faut qu'elle sacrifie quelque chose.
Quelqu'un ou quelque chose, oui.
C'est là, je trouve, que la personnalité des personnages vient à rejaillir. Shauna, qui, on voit tout au long de la deuxième saison, qui a dû se couper d'elle-même pour accomplir des atrocités, pour faire survivre ses amis. Divulgateur encore, il faut qu'il découpe le frère de Travis, Yavi, en morceaux afin de le nourrir les autres filles.
Juste après avoir perdu.
Juste après avoir. Divulgateur numéro 2. Juste après avoir perdu son bébé. Et tu sais, elle est obligée de se déconnecter d'elle-même, de tout ce dont elle croit, de toutes ses valeurs, de tout ce dont elle croit. C'est sûr qu'elle n'y croira pas au wilderness. Mm. Tandis que Lottie, elle s'est tout investi dans ses croyances-là pour survivre. Mm. Donc c'est là qu'on a le clash de personnalité qui est très fort. Mm. Lottie dit un moment aussi à sa psychologue, elle dit « J'ai pas peur de pas d'être malade. » Elle dit « J'ai peur de pas être malade.
Ouais. »
Donc moi, c'est cette dynamique-là qui s'est établie, qui a pris tous les épisodes avant de s'établir, qui m'a vraiment bouleversé, dans le fond.
Mais toi, en tant que spectateur, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel?
Je pense que c'est une question impossible à répondre.
Okay.
Y a des éléments qui ont été mis... pendant le dernier épisode, la fille avec le voile puis les bois de serre que Lottie hallucine dans une vision. On l'a vu dans la première saison, elle.
Mm-hmm.
On le sait pas. On sait pas qui elle est. On sait pas qu'est-ce qu'elle représente.
Ouais.
Y a plein de petites questions aussi qui n'ont pas encore été répondues. Mais toi, qu'est-ce que tu penses qui...
Moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a quelque chose. Parce que certaines visions de Lottie, surtout dans la saison 1, se sont d'une manière ou d'une autre avérées vraies. Comme elle voyait quand même des choses. Je pense surtout à la mort de... À son prénom m'échappe, mais celle qui était vraiment très religieuse, qui est morte dans...
C'est l'explosion de l'avion.
Exactement. Et comme Lottie a vu du feu autour d'elle. Donc il y a quand même quelque chose qui met le doute. Et c'est ça que j'apprécie aussi avec cette série, c'est que... Comme tu le dis, on pourra jamais vraiment trancher la question parce qu'on pourra dire oui, mais... Enfin, il y aura toujours quelque chose qui t'empêchera de vraiment te positionner. Mais pour moi, on va dire que je me positionne un peu du côté surnaturel. Mais je trouve ça important aussi de se cacher derrière le surnaturel parce qu'en fait, tu as peur d'accepter ta part vraiment dark en fait, de toi-même, ta peur vraiment primale, ta peur qui fait qu'au fur et à mesure, en fait, tuer va devenir une habitude, va devenir un réflexe. Tu vas juste plus y penser, il y aura juste ton envie de survivre, qui est très humaine finalement, qui va prédominer sur tous tes autres instincts. Et comme c'est un peu te soulager la conscience que de te dire « Ah ben non, c'est juste un hit, c'est juste une force surnaturelle qui me pousse à faire ça. »
Je pense que oui, et puis je pense que c'est quelque chose qui a suivi les êtres humains pendant toute leur... tu sais, même encore aujourd'hui, lorsqu'on essaie de rationaliser quelque chose qu'on comprend pas, on se dit... Ah, il doit y avoir une explication scientifique à même qu'on comprenne, tu sais. Mais tu sais, juste pour renchérir sur ton point, il y a d'autres personnages qui ont des visions aussi, puis c'est passé... Les derniers épisodes sont tellement intenses qu'on est passé un peu par-dessus. Il y a Ben, l'entraîneur, qui hallucine son copain ou la personne qui aurait été son copain à l'intérieur du chalet isolé. Il y a Marie aussi qui a eu une hallucination parce qu'elle a vu du sang couler sur les murs. Oui. Puis elle a dit « Ils sont mortes, elles sont mortes! » On n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que ça va mener.
Oui.
C'est un cliffhanger, je pense, pour la troisième saison.
Pour la troisième saison, oui. Et en parlant de personnages, ce serait qui ton personnage préféré?
Ben, tu m'as posé la question hier, puis j'ai été vraiment avec les réponses faciles avec Lottie, puis Shauna. Shauna est vraiment un personnage vraiment incroyable. Mais en réfléchissant ce matin, j'ai beaucoup été touché par l'espèce de prise de conscience de Misty dans les derniers épisodes.
Okay.
Dans la prise de conscience qu'il existe un monde en dehors de ce qu'elle a vécu avec ces filles-là. Mm. Où est-ce que, tu sais, que Walter, son copain, joué par Elijah Wood, d'ailleurs, très, très charmant,
très bien joué.
où est-ce que... Puis à la fin, quand elle s'effondre dans ses bras, il y avait... J'étais comme soulagé pour elle. J'étais touché, puis j'étais soulagé pour elle. Toi, c'est Shauna?
Moi, c'est Shauna.
Mais
en fait, je les aime toutes, je pense. Mais Shauna, il y a quelque chose de très... Je m'identifie à elle. Si j'avais été dans sa position, je pense que j'aurais été Shauna. J'espère que j'aurais été Shauna, parce que je la trouve vraiment courageuse. Je la trouve vraiment la tête sur les épaules. Et puis, quand il faut le faire, il faut le faire. Et quand faut y aller, il faut y aller. Elle a perdu son enfant, mais quand même, tout le groupe compte sur elle. Donc, elle prend sur elle et puis elle fait ce qu'il y a à faire. Il y a vraiment ce côté de faire ce qu'il y a à faire qui m'impressionne. Puis il y a aussi sa manière de gérer le deuil qui vraiment m'a touchée, en fait. Que ce soit le deuil de Jackie comme le deuil de son enfant, c'est comme deux façons de gérer qui sont différentes. Le deuil de son enfant sera beaucoup plus violent, beaucoup plus, parce que c'est là ça vient de se passer.
On va en parler tantôt, d'ailleurs.
Et comme vraiment, c'est un personnage qui me touche et c'est aussi un personnage dans lequel je m'identifie. Mais c'est aussi un personnage que j'aimerais, si j'avais été dans cette situation-là, que j'aimerais être, I guess.
Ouais.
Donc, mais Misty est... Je la vois un peu comme la... si je peux le dire, la Hermione Granger du groupe, où comme, elle est là et on se rend pas compte qu'elle est là, mais elle l'apporte beaucoup. Elle fait du travail que les gens prennent un peu pour acquis. Mais beaucoup de choses positives, on s'entend, ne se seraient pas passées si Misty n'avait pas fait quelque chose dans l'ombre pour que ça se passe.
Puis côté personnage, elle laisse tomber ses murs à un certain point. Oui, c'est ça qui est vraiment beau avec elle. Mais je suis d'accord pour que Shauna est un personnage absolument exceptionnel. C'est Sophie Nélis, l'interprète de Shauna, la jeune Shauna, que j'ai interviewée avant la saison, qui me disait, elle disait, Shauna, elle a une force intérieure, elle n'a pas besoin de l'approbation des choses. Connaît sa valeur, elle connaît ce qu'elle est capable d'apporter à n'importe qui, n'importe quand. Puis je trouve que c'est vraiment ça qui l'a propulsée, justement, au travers des décisions difficiles qu'elle a eu à prendre. Yellow Jacket, c'est beaucoup une série sur la responsabilité, je trouve. Aussi sur quel point est-ce qu'on prend responsabilité de qui on est, puis c'est la personne qui prend la plus grande part de responsabilité dans tout ce qui se passe.
Et de la violence qu'on commet aussi.
Oui, clairement. Ouais.
Ce qui m'amène à cette question plutôt. tu poses quel regard sur la violence dans cette série? Comment est-ce que tu la perçois?
Ben écoute,
est-ce que tu l'expérimentes?
Tout ce podcast-là est une excuse que j'ai personnellement pris pour vouloir parler d'une scène en particulier.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Après que Shauna perd son bébé, ça prend un certain temps avant qu'elle s'en rende compte. Elle avait perdu conscience, tout ça. Lorsqu'elle revient, elle est complètement hors d'elle. Elle avait une vision des autres filles qui mangeaient son bébé.
Elle aussi, elle avait une vision. Oui.
Exactement. Puis là, elle se fait face à Lottie. Puis Lottie lui dit un truc, je trouve ça tellement beau et désarmant. Elle lui dit, t'as beaucoup de violence en toi. Elle dit, faut que tu le laisses sortir parce qu'on va avoir besoin de toi. Et là, Shauna procède à foutre la plus grande raclée que j'ai vue dans une série entre femmes qui dure pendant plus qu'une minute sur la chanson Lightning Crashes de Life, qui est une belle chanson sur la perte d'un enfant, ce que je trouvais un petit peu ironique. Mais cette violence-là m'a frappé comme... Tu sais, souvent la violence dans les films, c'est chorégraphié, c'est sexy, c'est désirable. C'est une manière de régler un problème.
Ouais.
Là, c'était comme... C'était vu comme quelqu'un qui essayait de faire sortir du poison de elle. C'était comme un mal nécessaire. C'est pour ça que les filles n'interviennent pas.
Il n'y avait pas d'esthétique. C'était vraiment comme... C'était brute, en fait.
Ah ouais. Oui, puis je sais pas si vous avez déjà vu des vraies batailles. Le visage de Lottie était très réaliste après ça. Elle était très réaliste avec la mâchoire croche, crache un peu de sang parce qu'elle a du sang dans l'œsophage. C'est ça, la violence n'est jamais désirable, mais dans la situation où elle était inévitable. Puis c'est ça qui, selon moi, fait de la violence qui est émotionnellement marquante en télé ou au cinéma, c'est-à-dire que c'est le outcome, c'est la fin de quelque chose qui s'est mal passé. Plutôt, je ne sais pas si tu as vu la série Squid Game.
Oui.
La bataille finale entre les deux gars, Squid Game, elle est purement pas esthétique, mais tu sais, c'est de l'émotion pure.
Ouais.
Mais toi, comment t'as vécu ça?
Ben, tu sais, tu disais que c'était une violence inévitable, et je trouve ça vraiment... Je trouve que ça encapsule bien l'usage de la violence dans Yellow Jacket, parce qu'on est sur une base de... Tu sais, des gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui doivent faire des choix difficiles, des choix nécessaires pour survivre, en fait. Et comme... Il y a ce côté nécessaire que je vois aussi dans la violence où c'était nécessaire en fait que Shona se défoule sur quelque chose et comme Lottie s'est proposée pour être comme ben, le réceptacle de cette violence, ce qui, on pourra y revenir plus tard, mais comme je trouve que c'est assez altruiste de la part de Lottie et comme elle a beaucoup de... En tout cas, on y va.
C'est très... Moi, j'ai vu du symbolisme chrétien.
Ah oui. Ouais,
le sacrifice.
Sacrifice nécessaire.
Oui, exactement.
Mais comme oui, je vois vraiment quelque chose de très nécessaire dans la violence et comme quelque chose de très vrai. Et tu sentais que c'était pas gratuit. Tu sentais que c'était pas juste des effusions de sang, juste pour qu'il y ait des effusions de sang. Et d'ailleurs, on voit pas tant de sang que ça. On voit juste vraiment les coups, on voit juste vraiment le corps de Shona. On voit ses poings se défouler littéralement sur Lottie. Et donc, ça met le focus sur ce qui est important dans cette scène. Donc, le côté exutoire, le côté douleur de Shona, le côté vraiment extérioriser tout ça sur quelque chose, sur quelqu'un, donc sur Lottie.
Puis il y a un beau moment à la fin aussi où est-ce qu'elle fait juste mettre ses poings dans la neige, puis elle réalise qu'est-ce qu'elle a fait. Ouais, genre, on dirait qu'elle a comme exorcisé un démon. Là.
Mais c'est ça, c'est
elle
ça.
Elle redevient la leader qu'elle était.
Exactement. Ouais. Ouais. Et toi, si t'avais été, ce que je ne te souhaite pas, mais si tu avais vécu un crash d'avion et que tu étais parmi un groupe de survivants, qu'est-ce que t'aurais fait de différent ou de similaire par rapport à ce que les filles ont vécu jusque-là?
J'aurais probablement essayé d'allumer des feux, genre contrôlés, genre pour faire comme pour signaler où est-ce qu'on est là, genre, puis il y avait des arbres partout, genre de couper quelques arbres puis d'essayer de signaler à des avions ou quelque chose qu'il y avait des feux, mais sinon, je le sais pas, parce que t'es dans la forêt, il y a zéro instrument qu'on peut utiliser pour s'orienter, pour savoir on est où. C'est 1996.
C'est ça,
il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas rien. Fait que j'aurais pensé au feu, mais sinon, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait?
Moi, justement, ouais, l'élément 1996, je pense que ça joue beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on aurait été en 2022, 2023. Le sauvetage se serait fait beaucoup plus rapidement. Comme oui. J'aurais eu moins d'anxiété.
Find my iPhone.
C'est ça. Exactement. Mais là, je pense que bon, on aurait commencé sur une bonne petite crise des paniques, comme pour bien mettre la table. Ensuite, je pense que dans les situations difficiles, j'ai une sorte de, je sais pas si c'est un instinct de survie, je dirais que c'est un peu trop fort. Mais dans la situation, comme dans cette situation, je pense que ça aurait été un instinct de survie. J'ai comme quelque chose qui surpasse ma peur et qui me dit ok, il faut faire. Et c'est pour ça que je m'identifie beaucoup à Shona parce que elle est aussi comme ça où elle garde vraiment un esprit qui est très OK, on est face à ça. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Pragmatique.
Ouais. Exactement, ouais. Très pragmatique. Mais c'est très drôle. Enfin, là, je le dis comme je le réalise aussi à l'oral parce que je suis 50% du temps pas du tout pragmatique. Donc, j'ai l'impression que la malléa pragmatique a besoin d'être activée quand il y a vraiment une situation de danger où je suis là, genre, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que option A, je meurs. Option B, je vis.
Mais je pense pas que Shona était pragmatique qu'à 100% au départ non plus.
Non. Oui,
c'est
oui.
Une série de traumas qui l'a amené à prendre justement responsabilité de la survie de tout le monde.
Ouais. Mais je pense que c'était quand même un peu en elle. Qu'on devient, on devient des choses et d'autres quand on passe par ces moments-là. Mais il y avait des petits...
Le petit côté rêveur est complètement évacué à la fin. Quand elle est 25 ans plus tard, là, c'est un moment pragmatique qui n'a absolument aucune joie dans sa vie.
Ouais.
C'est pour ça que dans la première saison, elle va en couple avec Adam parce qu'il la fait rêver un peu. T'sais.
C'est ça, oui, mais oui. Ouais. Puis on a vu comment. <C'est passé. rire> Et écoute, ce serait quoi tes prédictions pour Yellow Jacket saison 3?
Je qui pense meurt? Que. Je pense que.
Non, pas Van.
Van. Non, je pense pas que Van va mourir parce que. Parce que. Spoiler, encore une fois, Van revient à l'âge adulte dans la saison 2, mais elle a le cancer. Mm. Donc, je crois que le sacrifice de du dernier épisode, spoiler, c'est Nathalie qui décède, va la guérir du cancer. Puis c'est là qu'on va se mettre à douter s'il y a une présence surnaturelle ou non dans le...
Je pense aussi que ça va vraiment être quelque chose qui va... Parce que jusque-là, on est... Peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être un peu étrange si effectivement... Parce que la façon dont elle décrit son cancer, c'est vraiment, je dirais, comme cancer type T3 ou 4, comme la mort est imminente. Donc si elle se relève de ça, enfin si du jour au lendemain, elle n'a plus de cancer, là, on pourra se tourner vers l'autre en se disant...
Je sais ma prédiction. Okay. Je sais pas qui va mourir, mais je sais qui va tuer cette personne-là.
Okay.
C'est le double de Thaïssa, l'espèce de personnalité sombre de Thaïssa va tuer quelqu'un, j'ai l'impression. Toi, c'est quoi ta prédiction?
Ma prédiction, c'est que... Ben, c'est pas tant une c'est un peu une prédiction facile, mais je pense qu'on va voir d'autres personnages de 1996 émerger. Je pense qu'on va avoir un personnage qui sera énervé par quelque chose qui s'est passé et qui garde cette rancœur et qui a comme manipulé un peu, tu sais, dans l'ombre, qui a un peu fait ses plans et puis tu le vois un peu émerger dans Coach la saison Ben. 3. Coach Ben.
Ça serait bien.
Ouais.
Ça serait très bien. Wow, parce qu'il perd la boule dans la saison 2. Là.
Exactement. Mais il reste quand même très lucide parce que je sais qu'il n'a pas encore... quand il les voit un peu devenir divulgateurs, ils sont cannibales. Mais quand on les voit... Il les regarde manger petit à petit leur coéquipier et puis on sent le dégoût un peu en lui. Donc il y a quand même une certaine lucidité qui reste en lui. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose qui... Enfin, en assumant qu'il ne soit pas mort maintenant, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va garder une certaine rancœur et qu'en 2022, il sera prêt à en découdre.
Ouais, ce serait fou.
Ouais, c'est ça, j'espère.
Ouais.
Donc, ce serait ma prédiction.
Cool.
J'avais une dernière question un peu improvisée.
Oui, oh, j'adore.
T'en penses quoi de la mort de Nathalie? Plutôt, ma question, ce serait, est-ce que tu penses que c'était un bon move de la faire mourir?
Narrativement parlant, oui, parce qu'elle porte ce désir de mourir au début de la deuxième saison. Mm-hmm. Elle est guérie par Lottie, par l'espèce de safe space qu'elle donne aux gens dans son centre de développement personnel.
Mm-hmm.
Donc, il y a une certaine ironie narrative peu à la faire mourir, elle. Mm-hmm. Surtout qu'elle s'est pris une vie qui est avec beaucoup, beaucoup de problèmes.
Ouais.
Puis le fait aussi qu'à la fin de la saison, elle est élue, ça j'ai pas trop compris pourquoi, elle est élue chef du camp dans le Wilderness en 1996. Mm-hmm. Donc il y a cette espèce de dualité narrative là où Nathalie continue d'avoir influencé la vie des gens, mais est décédée.
Ouais.
Je trouvais que c'est un choix intéressant.
Mais c'est intéressant, mais en même temps, je trouve ça un peu... Ça m'a un peu attristée parce que je me suis dit, mais... Tu sais, elle commençait tout juste à aller mieux. Elle était dans une secte, etc. Mais elle commençait à aller mieux. Et puis, paf.
Ouais.
Comme juste au moment où on peut penser à une rédemption pour elle, on anéantit un peu ça. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens de la scène juste après où elle est comme dans une sorte d'avion et elle dit, je ne suis pas censée être là.
Ouais.
Et comme tu as soit la Nathalie d'avant, enfin Nathalie de 1996 qui lui dit, non, mais...
Absolument, ça fait longtemps que tu es supposé être là.
Donc je sais pas. Mais après, je me dis, peut-être qu'en la tuant, quelque chose de plus grand encore nous est préparé pour la saison 3.
Ben, moi j'ai l'impression qu'en la tuant aussi, le personnage de Lisa, qui est une jeune femme qui vit dans la secte de Lottie, va prendre plus d'importance.
Ouais.
Parce qu'elle s'est liée d'amitié avec Nathalie, puis elle comprendra pas un peu ce qui relie les femmes entre elles. Fait que je pense qu'elle va peut-être être une antagoniste même dans la saison 3.
Ah ouais. Bah écoute, on a hâte de voir tout ça.
Yes.
Ouais. Bonne conversation, Ben.
Ouais, exactement. C'est un plaisir. Toujours. C'est toujours un plaisir.
Toujours un plaisir.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Play. E-boy.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.